Vous êtes sur RTL.
La question, et échec, c'est la question du jour, Pascal.
Ah, échec par rapport au vaccin, bah oui, moi j'en suis très heureux, j'ai envie de dire.
Vous êtes heureux de l'échec. Bah, on va développer ce paradoxe dans une seconde. Christelle Robière pour le rappel des titres.
Réunion de suivi cet après-midi à l'Élysée sur la vaccination avec notamment Jean Castex et Olivier Véran. La Haute Autorité de Santé n'a pas l'intention de changer de stratégie. Elle défend le choix de vacciner en priorité les personnes âgées dans les EHPAD, mais reconnaît qu'il faut sans doute aller un peu plus vite. Au Royaume-Uni, on vient d'entamer une deuxième série de vaccinations avec les doses mises au point par le laboratoire AstraZeneca. C'est une première. Un mariage de raison pour mieux affronter le futur. Le groupe PSA vient de fusionner avec Fiat Chrysler pour devenir le quatrième constructeur automobile mondial. Le futur groupe baptisé Stellantis abritera 14 marques de Peugeot à Jeep, en passant par Opel ou encore Alfa Romeo. L'homme de 22 ans placé en garde à vue samedi après la rêve partie, la fête sauvage du Nouvel An près de Rennes, a finalement reconnu avoir participé à l'organisation de la fête. Il a été déféré au parquet ce matin pour une éventuelle mise en examen.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
500 000 doses supplémentaires arriveront chaque jour, chaque début de semaine. On ne juge pas le succès d'une campagne vaccinale de 6 mois au bout de 7 jours. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement. Mais c'est vrai que le chiffre que rappelait tout à l'heure Christelle Robière est terrible. 516 simplement personnes vaccinées en France. Pascal, vous êtes délégué médical, vous habitez Saint-Étienne et vous êtes plutôt content de cet échec,
oui.
Ce qui est paradoxal. Expliquez-nous pourquoi.
Bah, pourquoi tout simplement, moi j'avais eu l'occasion déjà d'intervenir sur votre antenne hein, et de faire part de mon scepticisme à l'égard de ce vaccin quand même, donc qui n'en est pas un, enfin on joue sur les mots, hein. Bon, on va pas rentrer dans le détail de cette thérapie génique, mais tout de même, bon, c'est cette narration un peu hypnotique où on dit aux gens mais ne vous méfiez pas, enfin ayez confiance. Moi je trouve que voilà, on est dans la précipitation.
Combien de gens ont été vaccinés dans le monde aujourd'hui ?
Dans le monde, non, du tout.
À peu près, on a dépassé le million.
Ouais.
Bon, visiblement, il n'y a pas de souci. Ça, c'est factuel,
c'est trop court. Oui, parce que là, la vaccination a commencé depuis, au niveau mondial. Hein, les premiers à avoir commencé la vaccination, là, le Royaume-Uni, ça fait combien maintenant ? Juste un peu avant Noël, là, non ? C'était, je ne sais plus, dans le temps. Enfin, on va dire que ça fait 15 jours, en gros, non, que la vaccination a commencé.
Mais convenez que dans ces 15 jours-là, il n'y a pas de réaction.
Attendez.
On ne se vaccine jamais avec votre système. Des gens comme le généticien Axel Kahn, quand les plus grands professeurs donnent leur avis prématuré sur ce vaccin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je les crois.
Oui, mais c'est à terme. Alors, tout dépend si on raisonne à court terme, à moyen, à long terme.
Mais qu'est-ce que vous
savez, les médicaments, moi, j'ai vu d'expérience, Pascal, d'expérience, moi, j'ai vu des médicaments mis sur le marché hein, et retirés. Parce que malgré les études, et nous personnellement, on avait un médicament qui devait sortir, bon c'était dans l'hypertension il y a déjà une vingtaine d'années, et finalement on était dans les starting blocks, et le médicament ne l'a pas sorti, parce qu'on a eu une étude sur les nombreuses études.
J'entends bien, Thierry est là, Thierry qui est chef d'entreprise, et manifestement qui ne pense pas comme vous, et qui peut-être entamer le dialogue avec vous sur ce sujet. Bonjour Thierry, et bonne année, comme on va le dire à tous les auditeurs. Bonne année ou bon courage, je ne sais pas ce qu'il faut dire cette année, Thierry.
Oui, bonjour Pascal et bonne année à vous également. Moi, vous m'avez appelé pour commenter un petit peu le système américain et faire un petit peu l'analyse de différences qui existent entre ce système de vaccination aux États-Unis et en France. Et tout, pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui aux États-Unis, on est face à trois problèmes. Premier problème, c'est l'amont où les labos ne sont pas en capacité de livrer les doses qui avaient été annoncées il y a quelques mois. Il faut rappeler qu'il y a quand même à ce jour, il n'y a que deux labos qui sont en charge de la totalité de la production mondiale. J'entends hors Chine, bien entendu. Le deuxième point, c'est les annonces qui ont été faites par Trump lors de la campagne électorale d'immuniser à peu près 20 millions d'Américains d'ici la fin de l'année. Or, les derniers chiffres montrent qu'on est bien en dessous de cela. Donc, je crois qu'on a les mêmes problèmes un petit peu partout dans le monde. Et puis, En aval, la vaccination aux États-Unis a démarré dans un contexte où il y a eu une explosion du nombre de contaminations, ce qui a mis à l'épreuve et continue de mettre à l'épreuve les équipes médicales, alors qu'on nous dit que les vaccins sont disponibles, enfin les vaccins qui sont disponibles sont distribués par l'appareil logistique américain.
Ben je comprends, mais lorsque vous voyez la différence avec la France, vous trouvez quand même que le système américain dans cette séquence marche mieux que le nôtre ?
Sur le plan logistique, oui, parce qu'on a mis l'armée à disposition du système, alors qu'en France, on a vraiment le sentiment que c'est un petit peu du bricolage, quoi.
On sera tout à l'heure d'ailleurs avec quelqu'un qui a écrit « La lenteur de la vaccination française est un symptôme de notre déclassement ». C'est une tribune publiée dans le Figaro Vox. C'est Antoine Lévy et qui parlait notamment, effectivement, de cette logistique qui, selon lui, est le premier des dénis, la logistique. L'intendance suivra, aime-t-on à répéter en France, écrit-il, et cette intendance, elle ne suit pas toujours. Merci Thierry de votre témoignage. Pascal, qui est délégué médical, qui est très réticent,
je ne suis pas réticent à la vaccination en général, attention, j'ai toujours ce doute vis-à-vis de ce vaccin. Rappelons la létalité, le taux de létalité, le taux de mortalité aujourd'hui de ce coronavirus, ça reste très faible, que ça n'en déplaise à certains, mais c'est une vérité, si on rapporte en valeur absolue au nombre de patients, même
c'est
sur un
0,05 sur la population, c'est moins d'un sur ceux qui sont contaminés.
Tout à fait. Donc, ce qui est très, très peu. Donc, qu'on le veuille ou non, je sais bien que ça en déplaît à certains, parce qu'on veut absolument, et c'est ça que je trouve terrible, c'est de vouloir passer au forceps avec ce vaccin. Encore une fois, ça m'ennuie de parler de vaccin, parce que, vous évoquiez, par exemple, la tolérance. Mais il ne faut pas se méprendre. On parle d'effets secondaires, mais il y a les effets délétères à moyen, voire à long terme, qu'il peut y avoir.
Qu'est-ce que vous craignez, par exemple ?
Eh ben que l'ARN qui va être injecté. D'abord, je vous l'avais déjà dit, mais le PDG d'Acuitas, donc est le fournisseur
Mais je vous pose une question très claire. Qu'est-ce que vous craignez comme effet secondaire, par exemple, pour vous ? Ça m'intéresse.
Alors, d'effets secondaires, d'effets délétères, je vais dire, c'est si l'ARN est intégré par l'ADN du patient, ça risque de modifier le génome.
Mais
et ça, on n'a pas de recul.
Je suis incapable de répondre à cette question, mais Axel Kahn, généticien, dit non. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je suis plus enclin à croire Axel Kahn.
Axel Kahn que moi, évidemment.
Ah oui, mais puisque c'est son métier.
Bien sûr, mais je l'entends bien. Oui, non, mais d'accord.
C'est essentiel.
Non, mais Pascal, interroger peut-être plutôt que Axel Kahn qui a une tribune, qui a les plateaux pour lui, interroger peut-être d'autres généticiens
je voudrais bien les entendre, qui nous appellent, les généticiens. Il est 13h08. Merci en tout cas, Pascal.
Ouais,
merci.
Tout à fait. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir.
La parole est libre, bien évidemment. Damien Méchiot, bonne année. Réalisateur.
Bonne année,
et on en profite. Meilleurs vœux également à Greg Caradoni, qui manifestement n'est pas avec nous aujourd'hui.
Tout à fait. Il sera peut-être demain.
Peut-être. Bonjour, peut-être. Bonne année également à Laurent Tessier. Il va être là. Ah ben il est rentré, Laurent Tessier. Bonne année, ami. Vous allez parler après la publicité. Bonne année à toute l'équipe des auditeurs. Cyranouche, évidemment, Evan, mais aussi Olivier.
Pierre-Louis,
toute l'équipe. On est heureux de vous retrouver. 13h09, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier, donc, pour les premiers messages de l'année.
La campagne de vaccination est-elle déjà un échec? 516 personnes seulement ont été vaccinées au 1er janvier, selon le ministre de la Santé. Quelle honte! Pour Grégory, on ne fait rien comme les autres. Vaccinons rapidement toutes celles et tous ceux qu'ils souhaitent. Lance Nat sur la page Facebook de l'émission. Pour Fabrice, entre l'épisode des masques, des tests, maintenant le vaccin, que d'échecs du gouvernement. L'administratif, la bureaucratie nous font beaucoup de mal, critique encore Thierry. Et pourtant, rajoute Xavier, la stratégie répond parfaitement aux attentes. On ne va pas trop vite. L'exécutif respecte la volonté de bon nombre de Français. Et les gens adorent râler, observe Damien, toujours à se plaindre. Si plusieurs milliers de personnes avaient déjà été vaccinées en France, certains auraient crié au scandale.
Je salue Antoine Lévy qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes normalien, vous êtes diplômé d'HEC de la Paris School of Economics, vous êtes économiste et doctorant au Massachusetts, donc aux États-Unis, et sans doute êtes-vous en France en vacances pour les fêtes, peut-être, Antoine Lévy.
Exactement.
Vous êtes rentré au pays, j'allais dire, chez papa et maman. J'ai lu votre papier avec beaucoup d'intérêt dans le Figaro Vox. La lenteur de la vaccination française est un symptôme de notre déclassement. Et vous écrivez ceci, c'est le produit de l'arrogance d'un État imbu de lui-même, imperméable à la critique, de la suffisance d'une administration et d'une classe politique autosatisfaite, boursouflée et incapable de la dose d'humilité nécessaire pour faire machine arrière et s'inspirer simplement de ce qui fonctionne ailleurs. Antoine Lévy.
Oui, je pense que ces mots sont forts, ils sont peut-être violents pour certains, mais je pense qu'ils traduisent bien un mélange d'exaspération et en réalité de d'épuisement face à cette situation, parce que nous la vivons tous, et nous vivons tous cet échec de l'État, cet échec de l'organisation de l'administration, cet échec dans finalement ce qu'on appelle parfois en économie la state capacity, c'est-à-dire la capacité à mettre en œuvre une politique. Une fois décidée, et c'est très bien de décider en théorie au plus haut niveau de l'État, il faut suivre la mise en œuvre, il faut s'assurer que les consignes sont appliquées et il faut évaluer la réussite de cette politique en aval.
Mais à qui la faute ? C'est la faute du politique ou c'est la faute de la haute administration ? Moi, j'ai le sentiment que les politiques, et c'est ce que dit souvent Emmanuel Macron à son entourage, il dit, je caricature à peine, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'entre les décisions qu'on prend et les décisions à appliquer pour faire bouger le mammouth, c'est absolument impossible. Donc, est-ce la faute du politique ou est-ce la faute de cette administration qui est devenue si importante ou si kafkaïenne qu'on ne peut rien faire ?
Vous savez, moi, je ne suis pas politologue. Je ne fais pas l'analyse de la situation politique. Je regarde la manière dont on met en œuvre une politique qui est dans l'urgence, effectivement, qui est dans une situation de contrainte difficile, dans laquelle finalement il faut arbitrer entre des choix difficiles. Et ces arbitrages, ça c'est le rôle du politique. On aimerait tous avoir 10 ans pour mener la vaccination au mieux, avec le plus de recul possible. On aimerait tous avoir devant nous un horizon dégagé, mais on ne l'a pas. Et quand on ne l'a pas, il faut faire des choix qui ne vont pas au plus parfait, mais qui sont au mieux. Et ces choix-là, à mon avis, sont la responsabilité du politique. Évidemment, un politique informé, mais pas seulement par des scientifiques et par des médecins, informés aussi par des économistes et par un certain nombre de gens qui peuvent fournir une analyse peut-être plus complète de la situation, qui ne s'applique pas uniquement aux contraintes sanitaires, mais qui mettent en balance les coûts économiques, les coûts sociaux, les coûts psychologiques des mesures de confinement et des autres mesures que l'on doit prendre en attendant d'avoir vacciné l'ensemble de la population. On ne peut pas se contenter de tout faire au mieux sur le plan sanitaire exclusivement, ce qui n'est d'ailleurs même pas le cas, il faut aussi prendre en considération les coûts réels de la crise pour les citoyens.
Vous rappelez également que la France est le seul parmi les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir développé son propre vaccin. Et puis, vous soulignez les dénis. Et le dernier, le plus grave, dites-vous, c'est celui du réel. Le gouvernement, fasciné par la pédagogie, passionné par la communication, semble avoir oublié tout à sa performativité obsessionnelle que face à une crise véritable et non pas fantasmée, seule l'action sauve. Il faut, nous dit avec solennité le ministre de la Santé, se battre contre la désinformation. Et si on se préoccupait plutôt d'abord de se battre contre le Covid, le gouvernement semble tourner à vide dans une logorée sans adversaire clairement identifié.
Oui, je crois qu'effectivement, on a substitué peu à peu dans la responsabilité politique l'idée que tout reposait sur la pédagogie, sur l'explication. Finalement, comme si les gens simplement ne comprenaient pas leurs intérêts, ne comprenaient pas ce qui était utile pour la société, et comme s'il fallait leur expliquer, et qu'après des explications posées et magistrales, finalement, tout allait au mieux. Et je crois que c'est un déni de la réalité du rôle du politique et du rôle de la haute administration. Ce n'est pas seulement de décrire, ce n'est pas seulement d'analyser, mais qui est aussi de faire avec les moyens immenses qu'on lui consent. On dépense en France, évidemment, des sommes très importante pour l'organisation de notre État, mais aussi pour les différentes missions de service public. Et c'est un choix collectif que l'on fait. Mais ce choix collectif, il doit avoir pour contrepartie une véritable responsabilité de l'État dans la mise en œuvre. C'est-à-dire que l'État ne peut pas se contenter d'être dans le commentaire et l'analyse. Il doit
être dans l'action, bien évidemment.
Et dans l'action.
Merci Antoine Lévy. Vous repartez quand pour les États-Unis ?
Le plus vite possible.
Mais dans ces cas-là, comment, il y a une quarantaine, comment vous êtes, quand vous êtes revenu, par exemple, il a fallu que vous passiez des tests en France?
Alors, j'ai passé des tests pour faire des allers-retours aux États-Unis parce que les compagnies américaines et l'État du Massachusetts requièrent pour rentrer sur le territoire un test négatif de moins de 2 jours et un ensemble de mesures de quarantaine sur place.
Ah oui, quand vous allez rentrer, quoi qu'il arrive, mesures de quarantaine?
Oui, sauf si on peut produire un test négatif juste avant le voyage et un nouveau test négatif juste après en arrivant. Voilà, je pense qu'il faut mettre en place ce genre de mesures absolument partout et évidemment en France aussi.
Eh ben merci beaucoup vraiment parce que je renvoie à ce papier qui est assez long d'ailleurs. Hein, on n'a fait que parler de quelques chapitres, mais vraiment la lenteur de la vaccination française est un symptôme de notre déclassement et c'est à lire dans le Figaro. Et puisqu'on parle de la presse, ben vous lirez peut-être le dessin de Plantu aujourd'hui qui est formidable à la une du Monde. C'est quoi ces retards? Vous voulez me faire crever? Alors ça c'est une personne qui dit ça. Et quoi? Me faire vacciner plutôt crever? La même personne, évidemment. Donc, comme toujours, Plantu a résumé avec un coup de crayon le français type ou le français moyen qui, en quelques jours, dit tout et son contraire. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, à ce micro. 13h17, la pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alexandre est avec nous et je le salue, il fait Sciences Po, Alexandre, il est étudiant. Bonjour Alexandre.
Bonjour Pascal, bonne année.
Ah merci, bonne année. Sciences Po, où est-ce que vous faites ça?
À Paris.
Sciences Po Paris. Et là vous êtes en présentiel, ce mot horrible, ou en distanciel?
Non, malheureusement on est encore en distanciel.
Donc la rue Saint-Guillaume, on n'y entre pas en ce moment?
Non, pas encore. J'ai hâte de la découvrir, peut-être un jour.
Ah, parce que vous n'avez pas eu encore un cours à rue Saint-Guillaume?
J'y suis allé une seule fois pour chercher ma carte étudiante, pour quand même vérifier que j'étais bien étudiant là-bas. Et malheureusement, comme je viens de commencer cette année mon master, je n'ai pas encore eu le plaisir d'y aller en personne, donc peut-être bientôt.
Bon, votre avis sur la séquence que nous vivons, Alexandre?
Mais écoutez, je pense que on en a parlé, il y a des questionnements qui sont tout à fait légitimes sur les lenteurs administratives. Quand j'ai lu hier dans le JDD qu'il y avait certains réfrigérateurs qui n'avaient pas été homologués pour transporter le vaccin, et ça pose quand même des questions assez importantes sur l'agilité de l'administration française. Et c'est ce que le président a rappelé dans ses vœux, c'est cette lenteur inacceptable. Mais souvenez-vous, c'était l'année dernière, mais c'était il y a seulement une semaine, on nous disait qu'on était en dictature sanitaire. Sur votre antenne, on avait parlé des passeports vaccinaux, des passeports verts. Pascal, qui est intervenu en début d'émission, l'a rappelé. Il regrettait qu'on voulait faire passer au forceps ce vaccin. Et maintenant, en 2021, quelques jours plus tard, on dit le contraire, qu'on ne va pas assez vite. Donc, comme l'a dit Plantu dans son dessin, les Français aiment bien quand même dire tout et leur contraire. Moi, j'aime bien regarder les faits. La stratégie est lancée depuis qu'une seule semaine. On parle beaucoup de nos voisins allemands, et ça aussi, c'est un complexe français qu'on connaît. Mais si on regarde chez d'autres voisins, nos voisins belges, nos voisins néerlandais, qui sont aussi fort sympathiques, ils viennent juste de commencer leur campagne. Donc, on est à peu près dans la même situation.
Oui, mais manifestement, quand même, ce qu'on appelle le vaccinodrome, c'est une solution qui est plus rapide, plus efficace que de se faire vacciner en ville.
Absolument.
Manifestement, donc ça, on ne le fait pas, le vaccinodrome. De la même manière, les 5 jours qui sont exigés entre 5 jours de consentement, entre le moment où le patient vient pour la première fois chez le médecin et revient 5 jours après, ça ralentit encore la vaccination.
Absolument, mais j'aimerais reparler de ce qu'a dit Antoine Lévy à la seconde. Il parlait de vouloir s'attaquer au réel. Le réel, c'est quoi? Le réel, c'est que pour qu'un vaccin soit efficace, il faut que 60% de la population accepte de le prendre. Aujourd'hui, en France, 40% des Français disent qu'ils sont prêts à se faire vacciner. C'est ça le réel. C'est des mathématiques. Donc ça n'excuse en rien les problèmes logistiques que vous mentionnez, et il y en a d'autres qui doivent être réglés. Mais ça confirme quand même que la stratégie vaccinale, elle doit aussi reposer sur de la pédagogie. Et c'est ce qui se passe. Vous avez parlé, le consentement éclairé dans les EHPAD. Évidemment que c'est compliqué. Ça
vous savez, la meilleure pédagogie, Alexandre, ce sera la vaccination elle-même. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus les gens vont être vaccinés, et on peut imaginer qu'il n'y aura aucun souci, eh bien les gens seront convaincus. Il y a un moment, la pédagogie, c'est aussi l'exemplarité. Si tous ceux qui se sont fait vacciner en France n'ont aucun souci, ceux qui peut-être hésitaient iront plus aisément.
Je l'espère. Après, ce que certains appellent de la lenteur peut aussi être de la prudence. Le jour où les vaccins, où il y aura eu beaucoup, beaucoup de vaccinations et qu'il y aura des réactions allergiques au vaccin, car il y en aura nécessairement quand on vaccine des millions de personnes, il y aura toujours un nombre infime de réactions négatives, d'allergies, de choses qu'on n'aurait pas pu prédire. Et ça, il y en aura. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Et ce jour-là, on dira peut-être, est-ce que le gouvernement est allé trop vite? Pourquoi tant de précipitations? Est-ce qu'on a pris les bonnes précautions? Donc, je suis d'accord avec vous que la preuve, c'est toujours la réussite et le réel. Mais il faudra quand même être clair ce jour-là que on a fait le plus rapidement possible avec de la pédagogie et on a essayé de lutter contre ces lenteurs injustifiées, dont les lenteurs administratives que vous mentionnez précédemment.
Bah, merci beaucoup Alexandre en tout cas.
Merci
et
à vous,
la reprise, vous avez repris aujourd'hui en distanciel ou
Non, vous savez, on reprend
même le 4 janvier. Vous reprenez quand?
On reprend le 25 janvier. Ça fait vraiment de longues, longues vacances.
Ah oui, alors là, mais ça c'est dans le calendrier classique.
Absolument.
Avec ou sans Covid.
Oui, oui, c'est ça.
Master de quoi vous faites?
Affaires européennes.
Affaires européennes. Bon, bah écoutez.
Et d'ailleurs, si je puis très très rapidement en parlant d'affaires européennes, j'aimerais juste rappeler aussi, on en parle très peu, que grâce à l'Union européenne, on paye beaucoup moins cher le vaccin que nos voisins américains, par exemple. On ne paye 15,50 € la dose contre 19,50 € aux États-Unis. Donc on voit aussi que cette stratégie, l'Europe y a joué un rôle important et c'est des fois important de le souligner aussi.
Bah écoutez, merci beaucoup Alexandre de cette précision. Evelyne est là, Evelyne qui habite Perpignan, mais on l'avait eu Evelyne avant les vacances. Bonjour Evelyne.
Absolument.
Vous étiez venue à Paris passer vos vacances.
Noël.
Voilà, et vous étiez venue, à, je crois, chez votre fille.
Oui, c'est ça, je suis partie à Paris. Ça s'est très bien passé, hein. J'ai passé le réveillon avec mes enfants. Voilà, on était 10 à table. Donc, non, sans problème.
C'était le 24 ?
Le 24 décembre, oui.
Bon,
tout à
donc,
fait.
Depuis, si vous aviez eu un problème, vous le sauriez déjà,
non.
Puisqu'on
alors,
est le 4
Pascal,
janvier.
Oui, voilà. Alors, justement, quand j'entends qu'il n'y a que 500 personnes en France sur 65 millions d'habitants qui se sont fait vacciner, oui, c'est vrai, il y a de quoi sauter en l'air. Bon, dans tous les cas, vous connaissez mes opinions. Je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe. Donc, du coup, tout va bien. J'ai toujours été. J'ai jamais eu la grippe. Jamais. Voilà. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs combien de gens se sont fait vacciner contre la grippe, tout simplement, la grippe saisonnière, qui est souvent en novembre, décembre, janvier, où les gens ils se découvrent un peu plus, ils attrapent froid autrement. Alors, la vaccination contre le Covid, alors encore moins, hein, je peux vous dire, encore moins. Écoutez, que ceux qui veulent se faire vacciner, ils se fassent vacciner. Voilà, pour moi, c'est... voilà.
Non, mais la difficulté de... Moi, j'entends votre raisonnement, mais ça marche et tout le monde le fait, parce que si tout le monde raisonne comme vous, on y est encore
oui,
dans un an.
Regardez, oui, mais sur 65 millions d'habitants, 65 millions n'attrapent pas la grippe non plus. Donc,
Oui. J'entends ce que vous dites. La difficulté de ce vaccin, c'est que généralement, on se fait vacciner lorsqu'il y a danger de mort. Donc, sur la variole, tout le monde y va, bien évidemment, parce que si vous chopez la variole, vous êtes mort. Bon, variole qui n'existe plus, d'ailleurs. Là, la particularité de cette épidémie, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément en danger de mort, et même la plupart des gens ne sont pas en danger de mort, et qu'il faut leur mettre dans la tête qu'ils vont se faire vacciner pour protéger les autres, au fond. Que ce n'est pas tant pour eux que pour les autres.
Pourquoi le gouvernement ne se fait pas vacciner? Dites-moi, parmi tous les ministres,
je pense, mais vous avez parfaitement raison, je pense que ça serait très intelligent de leur part, très pédago de le faire. Je suis d'accord avec vous, que le gouvernement devrait mettre ça en place, que ça serait très incitatif. Je suis à 100% d'accord.
Aucun de ces ministres, même quand on les interviewe, est-ce que vous voulez même des professeurs? On leur demande, est-ce que vous allez vous faire vacciner? Non, pas pour l'instant.
Je suis d'accord avec vous. Il y a un petit flou là-dedans, et quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Vous avez raison. Je pense que le gouvernement devrait se faire vacciner et ça serait très efficace en termes de pédagogie.
Je crois qu'en France, on a tout raté. Hein. L'histoire du port du masque, l'histoire de... après, il y a tellement de masques. Ben maintenant, le masque, il est obligatoire partout. En tout cas, on a fermé les restaurants, on a fermé les bars, on a fermé les remontées mécaniques, on a fermé tout ça. Et le vaccin, l'épidémie, elle est toujours là. Donc,
pas faux. Ça aussi, c'est ce que disent les restaurateurs, d'ailleurs. Les restaurateurs disent ce que vous dites.
C'est dramatique cette histoire de fermeture de restaurants. C'est dramatique l'histoire de fermeture des remontées mécaniques. Les gens, ils sont au bord de l'explosion. C'est pas possible. Donc je pense que c'est aussi une réaction des Français en disant
ils nous embêtent, on fera pas, on sera pas vaccinés. Voilà, on a tout fait, on a fait tout ce qu'on on nous demandait. On a fermé les restaurants, on a fermé les bars, les remontées mécaniques ne sont pas en route et tout. Et les gens, ils vont réagir comme ça. Alors, faites-vous vacciner, gouvernement, monsieur Macron, faites-vous vacciner, Castex et tout. Et ils ont qu'à se faire vacciner. Et demain,
et à ce moment-là, Evelyne, vous ferez vacciner s'ils sont vaccinés?
Non.
Ah bon.
Dans tous les cas, non.
C'est la question qui tue. Evelyne, non. Qu'ils se fassent vacciner, mais est-ce que vous, ça changera quelque chose?
Mais pour les gens qui sont pas en bonne santé, qui ont des problèmes.
Oui, mais Evelyne, il faut penser aux autres, paraît-il.
Mais moi, je ne me fais pas vacciner contre la grippe. C'est pas pour ça que je vais.
Mais la grippe, c'est particulier. C'est autre chose encore. La grippe, elle se soigne. Bon, Evelyne, comme j'aime pas donner des leçons, vous le savez, oui. D'abord, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est ça, oui. La vérité. Il faut dire aux gens, Pascal, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, si...
Pascal, je suis sûr que vous n'allez pas vous faire vacciner non plus. Alors...
Ah, il y a un moment... Si, Evelyne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je vais avoir
un peu de responsabilité quand même.
Oui, mais vous allez voir, peut-être qu'on aura, d'ici un an, on aura des réactions suite à ces vaccinations... qu'on ne sait pas pour l'instant.
Oui, mais bon, un moment où je crois quand même... Il y a des choses sur lesquelles je peux être méfiant, mais quand tout le monde...
Il y a 500 personnes qui sont vaccinées quand même. Tous les Français.
Il y a un million de gens qui ont été vaccinés sans doute au 4 janvier, il n'y a aucun souci. Sinon, des soucis classiques, parfois d'allergies minimes, qui peuvent exister, et puis qui, trois jours après... sont terminés. Merci en tout cas, Evelyne, et bonne année.
Oui, il faut deux vaccinations. Pour l'instant, on ne peut en faire qu'un. Donc,
merci.
Oh, c'est très bizarre. Merci Pascal et bonne année à toutes.
Merci à vous, Laurent Tessier.
Vous pouvez réagir à d'autres sujets au standard RTL. Vous révélez l'information ce matin, les restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier. L'exécutif a pris sa décision. Le chef Philippe Etchebest a réagi sur RTL ce matin.
C'est très dur. Les gens autour de moi, les remontées que j'ai, en tout cas, elles sont dramatiques. Il faut maintenant que le gouvernement soit à la hauteur de ces prises de décision.
Restaurateur, comment réagissez-vous à cette décision? Vous n'aviez plus trop d'espoir. Les dispositifs d'aide sont-ils suffisants? Êtes-vous inquiet pour votre activité? 3210. Et vous pouvez réagir à cette rêve partie en Bretagne, au sud de Rennes. Environ 2500 personnes réunies au Nouvel An. Le gouvernement a-t-il été trop laxiste? Le numéro 2 du Rassemblement National, Jordan Bardella, était l'invité hier du grand jury sur RTL.
2500 punks à chiens. Vous avez vu les images qu'on voit. Franchement, quel est le signal que l'État en envoie lorsqu'on plie devant 2500 personnes? Je crois que c'est pas l'état d'urgence qu'il faut déclencher aujourd'hui, mais c'est l'urgence d'un état.
L'état est-il impuissant face à ce type d'événement? Vous y étiez, vous avez participé à cette rêve partie, 32 ans. Et vous avez peut-être vu ces images de la première séance de dédicace de Miss France, Amandine Petit. Images qui font polémique, l'événement s'est passé dans un centre commercial dans le département de la Moselle. Un attroupement s'est créé autour de la toute nouvelle Miss. Le public portait des masques, mais il n'y a eu aucun respect de la distanciation sociale. Cela vous choque? Eh bien, nous attendons dès maintenant vos appels au 3210.
C'était TF1 qui organisait l'événement de ce Miss France. Les chiffres de la vaccination, je disais 1 million, c'est évidemment en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il y aurait 4,5 millions de gens vaccinés en Chine. Je dis bien il y aurait, parce qu'avec la Chine, on est toujours méfiant. Il y a à peu près 4 millions de personnes qui ont été vaccinées aux États-Unis. Il y a 238 000 personnes en Allemagne, 114 000 personnes en Italie. Puis nous, on est là avec nos 516 vaccinés. On va pouvoir les compter quasiment. On pourrait presque les accueillir dans ce studio. 516. Donc voilà. Donc ça fait quand même près de, aujourd'hui, un petit 10 millions de personnes vaccinées quand même dans le monde. 10 millions de personnes vaccinées dans le monde. Bon, a priori, ça fonctionne. 13h30, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
C'était donc jeudi 31 décembre, c'était un rendez-vous secret en Bretagne. Il y avait des forces de l'ordre qui étaient présentes, mais qui n'ont pas pu ou mal intervenir. La rêve partie a réuni 2500 personnes au sud de Rennes et elle a montré une forme d'impuissance de l'État à empêcher ce type d'événement en temps de Covid. C'est aussi sans doute une volonté politique de ne pas... de ne pas avoir ajouté du trouble au trouble. J'imagine que c'est cela. On a été prudent parce qu'on n'a pas voulu faire le coup de force. Bonjour Marc.
Oui, bonjour, Pascal.
Qui est policier dans l'Essonne. J'imagine que c'est la stratégie de la police. C'est toujours un peu la même, de ne pas vouloir... Il y a 2500 jeunes qui sont là et on ne veut pas utiliser des moyens trop lourds.
Ah bah, de toute façon, dès lors que le début de la fête a commencé et que vous arrivez, parce que bon, nos collègues gendarmes sont intervenus, bon, ils se sont fait caillasser, il y a eu un véhicule incendié, vous sentez que le rapport de force va être inversement proportionnel à ce que vous pouvez amener directement sur place. Donc la stratégie, elle est simple, c'est vous rendez compte de votre hiérarchie, ça remonte jusqu'au préfet de région, et à partir de là, on vous dit, bon, ben, on va temporiser, et puis on va attendre, et on va faire en sorte que, effectivement, ces gens-là, à un moment donné, on sait ce qu'ils font, on sait ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire, en fait, faire la fête, s'amuser et tout, pour le nouvel an. Donc, on va attendre, on va bloquer les issues, et puis on les contrôlera à l'issue, une fois qu'ils seront terminés. Parce que si vous donnez l'assaut sur une fête comme ça, vous exposez à avoir des blessés parmi les forces de l'ordre. Ça encore, c'est acceptable, en fait, pour notre gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais si jamais il se passe un malheur, en fait, au milieu de la fête, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous savez, quand vous avez un membre de l'Assemblée nationale qui dit il vaut mieux 300 policiers blessés qu'un Malik Oussekine, en fait, vous avez une ligne de conduite qui se fait et qui est là. Donc, en fait, on attend, on temporise. Voilà.
Mais est-ce qu'à votre avis, c'est la bonne décision ?
Au niveau du résultat, oui, forcément. Forcément que c'est une bonne décision. Par contre, pour la population lambda, qui elle se dit, moi, à 20h15, je me fais contrôler par une police municipale ou une police nationale ou des gendarmes, et je peux pas expliquer pourquoi je suis dehors et que je prends 135 euros, c'est insupportable. Et moi, je peux le comprendre et le concevoir. Mais pour les gens qui sont sur le terrain, et notamment mes collègues gendarmes qui étaient là et tout, forcément c'est la meilleure solution, parce que rentrer dans ces hangars avec 2500 personnes qui sont en train de faire une rave party, faut pas se mentir, on sait pertinemment que ces gens-là vont être imbibés d'alcool,
Et on peut pas couper l'électricité parce que c'est des groupes électrogènes, hein, si j'ai bien compris.
Oui, voilà. Donc il y a
rien à faire. C'est-à-dire qu'autrement, on pourrait couper le courant, pourquoi pas. Mais ils ont leur propre groupe.
Mais en fait, ils ont leur propre groupe.
Bon. Écoutez, ce qui est terrible, c'est sur les réseaux sociaux, et puis pas que les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, l'État est impuissant, l'État parle parfois de fermeté, pourquoi pas veut agir contre le séparatisme, et l'État est même pas capable d'arrêter 2500 teufeurs un 31 décembre. Bon, c'est pas tout à fait qu'il n'est pas capable, c'est qu'il veut pas, pour tout dire, pour les raisons que vous venez de dire.
Le souci, en fait, c'est qu'à la limite, on a les moyens.
Oui, mais
on a les moyens.
Par contre, il va avoir du grabuge.
Il va falloir.
Il va avoir du dégât et personne ne veut assumer le dégât.
Que si on rentre, il va y avoir forcément des blessés et après, quelles sont les opinions.
J'entends Grégory est là aussi, et Grégory qui est gérant de discothèque en Vendée, pas très loin d'ailleurs. Grégory, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes gérant de discothèque et vous n'avez pas le droit d'ouvrir?
Bonjour. Je suis bien content de vous avoir et merci d'avoir sélectionné mon appel. Donc, moi, je pense plein de choses, très honnêtement. Je pense que les autorités le savaient. La discothèque Le Tremplin, qui est juste à côté, l'a même mentionné sur les réseaux sociaux, en disant qu'il y avait de toute façon, tous les ans, cette réunion de teufeurs, qui n'est pas du tout, hein, d'ailleurs, la même clientèle que la clientèle de discothèque. Mais donc il le savait. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qui va être le responsable. Pour moi, le responsable, c'est le préfet. Et comment ça se fait qu'on n'entend rien de ce côté-là? Ensuite, sur la gestion de cette soirée, personnellement, je trouve que les forces de l'ordre n'ont pas à aller se faire caillasser. Ils auraient dû encercler. et on aurait dû les obliger à rester pendant 15 jours dans ces locaux. Voilà.
Oui, ça c'est impossible, Grégory. Donc c'est impossible, c'est illégal. C'est illégal.
On les a laissés sortir et maintenant ils vont pouvoir les propager partout en faisant payer une amende de 135 euros. Mmh. Bon, excusez-moi du peu, mais non, ça ne marche pas. Enfin, pour moi, ça ne marche pas.
Merci de cela et je comprends ce que vous dites, même si hélas, ou pas d'ailleurs, cette solution n'est pas possible. Grégory et Marc qui intervenaient sur les rêves partis. On va parler de Miss France et de ce qui s'est passé en Moselle avec une réunion où les gens ne respectaient pas les gestes barrières, une séance de dédicace avec Miss France. Il est 13h37 et on reviendra entre 14h et 14h30 sur notre question du jour. La campagne de vaccination est-elle déjà un échec? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est parfois intéressant ce qui se dit sur Twitter. C'est Hubert qui dit « Je n'ai pas compris pourquoi cette rêve partie de Bretagne n'a pas été arrêtée et évacuée de force. » Parce qu'il y a une volonté de ne pas évacuer par la force pour les raisons qu'on disait. C'est-à-dire qu'il peut avoir des conséquences graves. Daniel est là. Bonjour Daniel, vous êtes ancien gendarme. Vous habitez...
Oui, tout à fait. Bonjour Pascal.
Plutôt. Bonne année.
Merci. Et vous aussi, en tous les cas, mes meilleurs vœux pour l'année à venir, en tout cas. D'accord.
Vous comprenez la stratégie de ne pas intervenir ?
Pardon, excusez-moi, pardon, Pascal ?
Vous comprenez la stratégie de ne pas intervenir dans la rêve partie ?
Mais bien sûr que non. Oui et non, en même temps, parce que c'est vrai qu'on est tributaire des ordres qui arrivent, des officiers supérieurs au-dessus de nous. Donc on est là à la maison, on est tranquille. Ensuite il y a une alerte qui est déclenchée pour pouvoir tous mettre les cars en route, tous les systèmes en route, ce qui fait que c'est quand même relativement difficile d'intervenir assez rapidement. Maintenant, ce qui me paraît quand même encore une fois très désagréable, c'est de voir que la gendarmerie n'arrive pas à attraper ces réseaux sociaux. C'est quand même pas possible, je veux dire, et ça me paraît pas normal, je veux dire. À partir du moment où il faut intervenir, non. Et puis proportionnellement, on n'est pas. Si on est un escadron, ça veut dire 60 bonhommes contre 2000, c'est pas possible. C'est pas possible.
Non, mais pardonnez-moi, mais il y a des cas où on fait intervenir, que ce soit le GIGN ou le RAID. Donc là, on juge que c'est pas assez important. Si on veut, on peut. Il y a même pas de souci.
Je suis d'accord, mais comment dirais-je, là, l'intervention ne méritait pas de faire intervenir le GIGN. Le GIGN intervient dans le cadre des actions beaucoup plus ardues. Hein.
Je parle de ça
en connaissance de cause quand vous parlez du GIGN en même temps.
Non, mais j'entends bien, mais comment dire, il y a le symbole. Évidemment que des toughers, c'est pas comparable avec ce qu'ils font avec des actions terroristes ou des actions qui peuvent mettre en cause la vie des gens. Nous sommes d'accord. Mais il n'empêche qu'ils sont dans une période très particulière en désobéissance avec la loi.
Et
le symbole qui est renvoyé, c'est un état faible.
Oui,
c'est pour ça que ce que
j'adhère totalement.
Ce que je dis, évidemment, peut faire sourire. Et peut-être qu'il y a des gens qui disent, on va pas faire intervenir le GIGN ou le RAID avec les teufeurs. Sauf que si un président de la République prend cette décision, le ministre prend cette décision, il donne un signe fort, avec un état fort, qui ne laisse pas pendant 48 heures, alors que la France ne peut pas sortir entre 20h, après 20h, le 31 décembre, où le moindre Français est contrôlé parce qu'il est en dehors du couvre-feu, est à 2500 bonhommes, et peut-être des filles avec, qui font la fête.
Pascal, excusez-moi, je vous coupe parce que ça, c'est bravo pour la théorie, mais la pratique, c'est pas du tout ça. Entre l'émission et la réception, je parle pas du taki-walki ou n'importe quoi, je parle de l'émission de l'information et de la réception, c'est-à-dire au niveau des officiers qui prennent la décision de se dire il est temps peut-être qu'on intervienne. Il y a forcément ce que vous venez de dire à l'instant.
qui est tout à fait... Mais,
enfin, si vous envoyez les gens du RAID, croyez-moi, ça va, ils vont courir, vos amis toffeurs.
Ah oui, voilà.
Ça, alors, là, croyez-moi, voilà. Mais évidemment, alors en toute, sans violence aucune, hein, bien entendu, mais je maintiens que c'est un symbole d'un état faible.
Vous attaquez un sujet extrêmement délicat en forme de scission entre le RAID et le GIGN et la gendarmerie. Vous savez bien qu'il n'y a jamais eu cet accord entre les gendarmes et la police, ça a été relativement...
J'entends bien, mais c'est la ZAD de Nantes pendant 10 ans. Voilà, oui, à partir du moment où vous donnez des signes de faiblesse, la ZAD de Nantes dans Notre-Dame-des-Landes, personne n'est intervenu, et puis à l'arrivée, et puis ils ont gagné. Les zadistes, ils ont gagné à l'arrivée. Donc, vous donnez à chaque fois des signes d'un état faible.
On est d'accord. J'adhère, mais alors à 1000% à cette idée, et je suis complètement horripilé d'entendre, d'avoir eu ce résultat d'incompatibilité. Et désolé pour les gendarmes qui sont en activité en ce moment, mais je sais qu'ils sont quand même indirectement liés aux ordres que l'on reçoit. Ça veut dire, comme je vous le disais tout à l'heure, on est à la maison, on est en train de manger avec sa famille, et on reçoit on reçoit une alerte. Il faut tous s'habiller en catastrophe, partir en catastrophe. Mais là, c'est beaucoup trop tard.
Eh bien, merci Daniel. Merci beaucoup. À 13h45.
Merci Pascal et bonne année.
Ben non, merci à vous de nous écouter régulièrement. On va marquer une nouvelle page de publicité, peut-être, monsieur Béchiot.
Tout à fait.
Alors, il n'y a plus de cadeaux, évidemment.
Non, désolé.
Il n'y a plus de pub de Noël, il n'y a plus de chansons de Noël. C'est fini. Tout ça est terminé. Il faudra attendre le mois de décembre 2021.
Sauf surprise, on ne sait pas.
Ah, la galette !
Tout à fait, peut-être
Ratatati. Mais ne vois-je pas Rachel, là-bas, que je n'avais pas salué tout à l'heure ?
Tout à fait, quelle vue.
Du système. Bonjour, Rachel. Tels les rois mages, elle est arrivée dans le studio, comme les rois mages en Galilée. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Comme les rois mages en Galilée,
suivez des yeux l'étranger. Sheila qui revient chaque... on est le 4 janvier aujourd'hui. L'épiphanie, c'est le 6 janvier. En Espagne, c'est le jour où on donne les cadeaux de Noël. Nous allons parler de Miss France qui était en Moselle. Première rencontre avec le public, première controverse. Élue Miss France 2021 le 19 décembre dernier dans un puits du fou. Il n'y avait pas de spectateurs ce jour-là. Amandine Petit a démarré son marathon de nouvelles élues. Ça s'est passé en Moselle et les gens étaient masqués. Mais le directeur du centre commercial se défend auprès de la presse locale. La jauge de 3125 clients imposée dans son établissement a été respectée, dit-il. Tout le monde était masqué, mais il le concède, les agents de sécurité n'ont pas réussi à faire respecter toutes les règles. Nous sommes avec Francis,
bonjour,
qui habite la Moselle.
Bonjour Pascal, meilleur vœu.
Bonjour Francis, meilleur vœu. Vous êtes allé voir Miss France en Moselle?
Non, j'y suis pas allé, on n'y est pas loin. Mais bon, il n'a peut-être pas dépassé la jauge. Mais
j'ai l'impression que le son n'est pas extraordinaire, donc on va essayer de le sécuriser, Francis. Et j'enchaîne avec Nathalie. Bonjour Nathalie, qui est assistante maternelle à Grenoble cette fois.
Allez, très bonne année à vous et toute l'équipe.
Eh bien, merci Nathalie.
Alors moi, je voudrais... Les Miss France, ce matin, j'ai pensé à mon cas particulier, à notre cas. Et du coup, je vais rebondir sur la culture, parce que la culture, c'est le cinéma, les acteurs, les musiciens. Et les musiciens, c'est aussi des petits orchestres dans les villes, dans les villages qu'on est actuellement, nous. Par exemple, une harmonie ou une petite fanfare festive de rue. Donc nous, déjà, on nous a fermé les salles, on n'a plus le droit de répéter, puisqu'on n'a plus le droit de répéter dans les salles publiques. Et puis d'habitude, une fanfare festive, des fois, ça vient sur un marché, entre les fruits et légumes et le fromage, puis ça fait un petit set de 20 minutes, ça égaye le marché, ça fait remuer les petits-enfants devant, on met un petit chapeau par terre, on nous donne 1 ou 2 euros si on a pitié de nous. Mais au moins, on ambiance un petit peu tout ça, quoi. Et nous, ça fait 3 mois qu'on n'a plus le droit de le faire, parce que les décrets des préfets nous ont interdit la musique sur la voie publique. Et puis surtout, on risque de créer un attroupement. Et quand je vois ça à la télé, je me dis, voilà. Du coup, dimanche, ce que je vais faire, je vais prendre mon saxophone, je vais mettre une robe à paillettes avec un bandeau bleu, blanc, rouge, j'écris la France dessus, puis peut-être que je pourrais, parce que je comprends pas.
Non, mais ce que vous dites est imparable, bien évidemment.
Parce que nous, on fait de la musique gratuite.
Les deux poids, deux mesures, tout le temps et toujours. Ce que vous dites, c'est imparable.
Et on joue en plein air dimanche. On ne joue pas dans un centre commercial. Ça aurait pu être en plein air. Donc les gens étaient en plein air avec leur panier et on ambiançait gratuitement pour amener un petit peu de joie sur, et on est plein d'orchestres comme ça en France où on nous a cloué le bec, quoi. Mais donc, dimanche, je vous enverrai une photo de moi en saxophone et en robe à paillettes.
Ça m'ennuie parce que je suis d'accord avec vous, donc je veux dire, moi je pense qu'il faudrait rouvrir les théâtres et la culture et le cinéma et voilà. Pourquoi pas les restaurants, parce que d'ailleurs on voit bien que l'épidémie elle continue, donc c'est pas là, je sache les théâtres ou le cinéma qui sont responsables de l'épidémie et qu'il faut peut-être vivre avec l'épidémie en respectant en revanche les gestes barrières, en portant le masque et bien notamment sûr. Au cinéma et au théâtre, et je ne perçois pas où est le danger, mais il faut qu'on me l'explique. Je pense qu'il n'y en a pas d'ailleurs de danger, évidemment qu'il n'y en a pas, il y en a
nous,
pas
nous,
plus
on
en
a
tout cas que dans le métro.
On aurait pu apporter un peu de gaieté au mois de décembre sur les petits marchés et tout, mais on peut pas, parce qu'en plus sinon il faut apprendre à courir avec son saxophone et son trombone parce qu'on peut nous verbaliser, quoi.
Bien sûr, Nathalie. On a retrouvé Francis, notre ami entrepreneur en Moselle. Francis, est-ce qu'on vous entend mieux?
Bonjour, on a changé de téléphone, normalement ça doit passer.
J'ai l'impression que c'est mieux, effectivement. Voilà. Bon, vous êtes en colère, bonjour.
Dites-moi, il y a un pilote dans l'avion ou pas en France?
C'est-à-dire?
On a l'impression que c'est le cirque. Non? La personne du centre commercial, le directeur, nous a dit qu'il n'a pas dépassé sa jauge, mais la jauge était concentrée dans le hall. Ils étaient tous dans le hall du bâtiment.
Non, mais qui est responsable de l'organisation de l'événement? C'est TF1 qui est responsable avec Miss France?
Ça, je ne sais pas qui a organisé.
Donc, il y a effectivement des multiples responsabilités, disons-le. Il y a sans doute le comité Miss France, qui est donc sous l'égide, j'imagine, de TF1. Il y a sans doute ce directeur du centre commercial, bien évidemment.
Voilà. À savoir qu'il nous organise quand même des autographes de Miss France, mais en même temps, on est à 18h, on doit être chez nous maintenant. Donc, il y a un couvre-feu à 18h. Mais on nous organise des autographes Miss France.
Je pense qu'il y aura, pour tout vous dire, je pense qu'il n'y aura pas une deuxième séance d'autographes. J'ai peur que. Mais
c'est dommage pour elle. Bon,
oui,
voilà,
mais c'est vrai que, honnêtement, c'est invraisemblable, quoi.
Voilà. Franchement, nous, on est frontaliers avec l'Allemagne. L'Allemagne, là, ils sont.
Oui. Non, mais.
Ils sont confinés. Donc, il n'y a rien qui est cohérent avec l'Europe, je pense, parce qu'en fait, là, l'Allemagne est confinée. Mais les Allemands viennent chez nous. Ils viennent faire les courses chez nous, puisque chez eux, il n'y a que l'alimentation qui est ouverte.
Non, mais je suis d'accord avec vous, Francis. C'est-à-dire que les stades de foot sont fermés. On n'a pas le droit d'aller en stade en plein air. Et on fait Miss France qui rencontre 3100 clients dans un espace confiné. Franchement, c'est invraisemblable, pour tout vous dire. C'est invraisemblable. Alors, c'est à la fois... Je veux dire, c'est pas ce qui va mettre le pays par terre, bien sûr. Mais que ce soit la responsabilité de Miss France, du comité Miss France, de TF1, pourquoi pas, de également l'organisation de ce centre commercial, ces gens sont irresponsables. Voilà. Faut dire les choses. Qu'est-ce que les jeux disent? Faut dire les choses.
Alors que nous, petite entreprise, on est en train de souffrir. Et il va y avoir encore beaucoup de casse à partir du moment où toutes les entreprises vont devoir rembourser le crédit, hein, parce que là, on va y arriver, là. On va bientôt y arriver, il va y avoir de la casse. Et puis de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y en a qui font ce qu'ils veulent.
En tout cas, effectivement, c'est ce deux poids, deux mesures qui est souligné par chacun. Hein. C'est vrai aussi pour la rêve partie, etc. On sent qu'il y a des gens, effectivement, qui ou se fichent des règles ou on ne leur applique pas à eux, mais les secteurs de la culture et de la restauration sont percutés de plein fouet. D'ailleurs, il y a François qui est avec nous, qui doit écouter ça. Bonjour François.
Bonjour Pascal, meilleurs vœux à tout le monde, à l'équipe et aux auditeurs.
Vous n'êtes pas restaurateur, vous êtes buraliste.
Alors moi je suis gérant d'un bar tabac.
Oui.
Et c'est ce que je disais à votre standardiste, aujourd'hui depuis 9 mois je suis gérant d'un tabac. Parce que le bar je ne sais plus ce que c'est.
Ah oui, et c'est pas fini hein.
Et c'est pas fini. Et c'est ce que je disais, et c'est ce que je dis depuis un certain temps, je ne comprends pas nos dirigeants. On va prendre un exemple, je suis malade d'un cancer. Et aujourd'hui, dans mon cancer, on me dit, on va vous dire dans 15 jours si ça va mieux. On va vous dire dans 15 jours. Et 15 jours après, on me dit, on va vous redire dans un 15 jours. Non, dites-moi où je vais. Et on ne me dit pas. Moi, quand on m'a dit au mois d'octobre que j'allais être reconfiné, que mon bar allait être refermé alors qu'il n'avait pas réellement repris, j'ai dit, on ne va pas ouvrir avant le printemps. Malheureusement, c'est ce qui est en train de s'arriver.
Et j'aimerais que vous ouvriez au printemps. Hein. Je ne suis même pas sûr que vous allez ouvrir au printemps.
Oui, non, mais c'est ça. Oui, c'est ça.
C'est terrible.
Oui, oui.
C'est terrible.
Mais c'est terrible.
Bien sûr. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que si il y avait une logique, si dans tous les autres secteurs ça marchait, si la vaccination était en place, si en fait, on a l'impression que ce gouvernement ne sait que fermer, ne sait que payer. Payer, ça c'est une très bonne chose, hein, que les uns et les autres soient payés. Mais dès qu'il s'agit d'avoir mis en place des tests, des masques, une vaccination, en fait d'agir, dès qu'il s'agit d'agir, eh bien, le gouvernement a failli. Donc, c'est ça qui est
ennuyeux. Moi, aujourd'hui, si vous voulez,
c'est facile pour le gouvernement.
Je vais vous expliquer une chose. Il y a quelques années, on nous a sorti le vaccin H1N1, vous vous rappelez ? À ce moment-là, j'étais hospitalier. Je travaillais pour un hôpital. Je me suis fait vacciner H1N1. Je n'ai jamais eu de complications. Je me fais vacciner contre la grippe. Je n'ai jamais eu de complications. Je demande à me faire vacciner contre Covid. Ah ben pour l'instant, c'est pas possible.
C'est impossible.
Malgré mes pathologies de diabète, de trucs et machin, je n'y ai pas accès. Je ne comprends pas.
Mais parce que c'est incompréhensible, hein.
Je ne comprends pas les gens qui... J'entends qu'il y a des gens qui sont contre la vaccination. J'ai entendu tout à l'heure votre auditrice qui disait « Mais il faut que le pouvoir se fasse vacciner. » Monsieur Macron ne peut pas se faire vacciner. Il a été atteint du Covid. Donc les personnes qui ont été atteintes du Covid ne peuvent pas se faire vacciner.
Oui, bah alors effectivement, mais les autres, ils peuvent.
Mais les autres peuvent. Les autres peuvent.
Ouais.
Mais pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu'ils ont décidé que nous, les buralistes, les bars, tabac, les restaurants, parce que j'ai plein d'amis qui sont restaurateurs, qui sont en train de voilà, hein, j'ai pas besoin de dire, on est en train de leur dire, tous les 15 jours, on va faire le point pour savoir si votre cancer va aller mieux.
Bon, bah écoutez, là encore, chacun entend, j'allais dire, votre frustration et peut la comprendre. Merci beaucoup, François. C'est la première partie de cette émission qui va s'achever. On va être dans une seconde. On va pouvoir poursuivre, bien sûr, cette discussion. Et nous serons avec Sylvain Maillard, qui est député de Paris, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Honnêtement, il est sympa, Sylvain Maillard, de venir, parce qu'il va encore prendre plein la figure, alors qu'il n'a rien demandé, si j'ose dire. Et il est député d'une majorité, c'est pas lui qui est aux commandes, bien évidemment, mais les auditeurs vont pouvoir dialoguer avec lui et exprimer leur mécontentement. Olivier Bois, dans une seconde, bonne année, cher Olivier.
Bonne année, Pascal, merci beaucoup.
On dit bonne année déjà à midi,
oui, tout à l'heure.
On
peut
se
le redire.
Toute la journée.
Tout le mois de janvier, si vous voulez.
Exactement. Vous avez apporté une galette ?
Non.
C'est dommage.
Pas galette. Je vous promets, je le ferai.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est quasiment 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et on va continuer notre discussion. Je le remercie, Sylvain Maillard. Il est député de Paris et il est courageux parce qu'il va en prendre plein la figure alors qu'il n'a rien demandé. Il est porte-parole du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale.
Bonjour, bonne Pascal année. Pro. Bonne année à vous.
Bonne année et bon courage. Croyez-moi, il en faut pour vous. On est déjà avec Charles qui est enseignant à Montpellier. Bonjour Charles.
Tout à fait, bonjour. Je vous souhaite également une bonne année, bien sûr. Mes meilleurs voeux à tout le monde. Et oui, effectivement, moi je souhaitais réagir justement sur le fait que la vaccination puisse être éventuellement un échec ou une réussite.
Eh bien, vous allez intervenir dans une seconde, mais c'est le flash d'Olivier Bois.
Avec d'abord la réunion cet après-midi à l'Élysée sur donc cette campagne de vaccination dont on va reparler dans un instant. Emmanuel Macron réunit les ministres concernés pour suivre la situation alors que le gouvernement a engagé une accélération. Cette semaine, 14 000 résidents d'EHPAD devraient être vaccinés. Et depuis ce week-end, en plus, ça n'était pas prévu comme ça, mais les personnels soignants de plus de 50 ans peuvent eux aussi se faire traiter. Les restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier, selon les informations révélées par RTL. L'exécutif a tranché. Il y avait assez peu de doutes, hein, vu l'aggravation de la situation sanitaire. On est toujours autour des 20 000 cas détectés par jour, bien loin de l'objectif des 5 000 cas par jour. La justice britannique refuse d'extrader Julian Assange vers les États-Unis. Il veut juger le fondateur de Wikileaks pour avoir publié des centaines de milliers de documents confidentiels, notamment militaire. hier. La justice britannique ne retient pas l'argument de la liberté d'expression invoqué par Julian Assange, mais estime qu'il n'est pas garanti qu'aux États-Unis il soit protégé contre le risque de se suicider. Le groupe PSA Peugeot Citroën s'allie officiellement avec Fiat Chrysler. Au total, un groupe, le quatrième groupe automobile du monde, 8 millions de véhicules, sous un nouveau nom, Stellantis. Le quintet à Vincennes, à l'instant l'arrivée provisoire. Le 15, le 2, le 11, le 13 et le 10. Il est 14h01, on vous retrouve Pascal Pro.
Merci Olivier. Et puis Laurent Tessier va pouvoir dresser le portrait Sylvain Maillard et également de ce qui nous attend.
La campagne de vaccination est-elle déjà un échec, un fiasco? Lors de ses vœux pour la nouvelle année, Emmanuel Macron avait prévenu.
Je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner de manière sûre et dans le bon ordre, en commençant par ceux qui présentent le plus de risques.
Mais au 1er janvier, en France, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
516, c'est le nombre de personnes vaccinées en France. Elles sont 80 000 en Italie, 238 000 en Allemagne. Or, nous avons commencé tous en même temps cette campagne de vaccination européenne.
Près d'un million de personnes vaccinées aussi en Grande-Bretagne. Mais à ce rythme, en France, nous y serons encore dans 5 000 ans, a déploré l'ancien directeur général de la Santé, William Dabb. Alors, pourquoi est-on aussi lent? Le gouvernement a voulu vacciner en priorité les résidents des EHPAD qui représentent un tiers des décès liés au Covid, Virginie Garin.
Dans d'autres pays, eh bien, on a ajouté tout de suite le personnel soignant. Donc en France, réserver les doses aux EHPAD et surtout aller vers les patients. On n'allait pas les déplacer vers des centres sous des tentes, donc ça demande une logistique plus lourde.
Une autre raison explique ce retard par rapport à nos voisins européens comme l'Allemagne ou l'Italie qui vaccinent aussi dans les EHPAD.
En France, on a décidé de demander un consentement écrit avec un premier rendez-vous. Il faut contacter la famille pour les malades d'Alzheimer. Tout cela en principe a été fait la semaine dernière et ça a pris du temps.
L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot parle d'un fiasco français. Le numéro 2 du Rassemblement National, Jordan Bardella, était l'invité hier du grand jury sur RTL.
Ils nous auront tout fait, c'est-à-dire qu'ils auront raté l'étape des masques, ils auront raté l'étape des tests. Franchement, on est la risée du monde.
Mais le gouvernement se défend. Les soignants de plus de 50 ans peuvent dès aujourd'hui se faire vacciner. Et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, parle chez nos confrères de LCI d'un démarrage progressif.
J'ai la conviction, mais la conviction que cette stratégie, elle va se déployer et que très vite, elle va prendre de l'ampleur parce qu'elle a été préparée, construite.
Une réunion de suivi de la vaccination est organisée cet après-midi avec Emmanuel Macron et le gouvernement garde un objectif. Écoutez Jean-Baptiste Djebbari, le ministre chargé des Transports sur BFM.
L'objectif, c'est de pouvoir vacciner 26 millions de Français d'ici à l'été. 26 millions de Français à l'été, ça nécessite évidemment d'accélérer.
Mais est-ce pour vous possible? La campagne de vaccination est-elle déjà un échec? Faut-il s'appuyer davantage sur les médecins généralistes? Le docteur Agnès Gianotti, vice-présidente du syndicat MG France, a pris la parole sur RTL ce matin.
On est 50 000 médecins généralistes sur le terrain. Je peux vous dire que si on avait les outils pour vacciner, ça irait beaucoup plus vite.
Se dirige-t-on vers un fiasco? À qui la faute? La bureaucratie française? Les blocages administratifs? Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, ne mâche pas ses mots.
Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est face à un scandale d'État. Ça me détruit parce que je viens d'une région où on a énormément souffert. Ça me détruit aussi parce que je suis fier de mon pays. Et d'habitude, je suis le premier à le défendre. Mais là, quelle forme finalement d'impréparation.
Il vient régulièrement faire le service après-vente. Sylvain Maillard, député de Paris et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, est votre invité.
Sylvain Maillard, là il y a le feu. Là il y a le feu, vous êtes député de Paris, porte-parole du groupe de La République En Marche. Pourquoi il y a le feu? Parce que tout le monde souligne qu'on est nul dans cette première phase. Hein, je le dis d'une manière extrêmement triviale. Il y a une réunion de crise à l'Élysée et... Emmanuel Macron l'a dit d'une manière différente de moi, mais c'est quand même incroyable ce qu'il a dit hier. Disons, le président de la République qui dit c'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français, c'est pas à hauteur de du moment non plus. Je lisais tout à l'heure Antoine Lévy qui exprimait son analyse, c'est le symptôme d'un déclassement et d'un appauvrissement organisationnel et technologique. Donc quel est votre sentiment? C'est un mauvais démarrage et tout va rentrer dans l'ordre? Ou c'est qu'on est très très mauvais avec notre administration et on est incapable d'agir, on est incapable de faire quelque chose en France.
Pascal Pro, je suis venu à votre antenne, pas pour faire de la langue de bois, pour vous dire la vérité et de ce qui marche et ce qui marche pas. Ce que nous pensons, c'est que la stratégie est la bonne, c'est-à-dire de vacciner en priorité les personnes dans les EHPAD et vacciner le personnel soignant, y compris les médecins généralistes. Par contre, c'est le cadencement qui va pas.
Ce qui ne va pas, c'est que nous prenions autant de temps, parce que la technologie est vraie compliquée de ce vaccin Pfizer, c'est-à-dire que, pour être très concret, c'est 5 doses. Quand vous ouvrez une dose, ça veut dire que les 4 autres, il faut qu'elles soient consommées dans un temps assez réduit.
Donc, il faut faire venir 5 personnes ensemble.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire au moins 5 personnes ensemble, oui. Et donc organiser, avoir une organisation.
C'est impossible. Les médecins généralistes en ville, ils vous disent c'est pas possible. Moi, j'en ai eu plein ce matin qui me disent c'est pas possible. Pourquoi pas faire de vaccinodrome? Par exemple, vous dites la stratégie est la bonne. Faire venir 5.
Pascal Praud, j'ai dit la stratégie. C'est-à-dire la stratégie, c'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est d'aller au plus près dans les EHPAD. C'est pas ce qui a été fait dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays disent, non, moi, nous, on vaccine
la stratégie, c'est aussi les médecins de ville.
La stratégie, c'est d'aller vers d'abord quel patient on veut vacciner en priorité. Ça, c'est la bonne stratégie. Je crois d'aller faire les personnels soignants et les personnes en EHPAD, c'est la bonne stratégie. Par contre, c'est l'organisation qui ne va pas.
Et
ça, on est tout à fait
donc,
d'accord.
Donc, vaccinodrome, faut
qu'est-ce
le faire.
Le braquet, il est changé. On réorganise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des centres, évidemment, où on industrialise beaucoup plus la vaccination. C'est comme ça que ça doit se faire. Les soignants peuvent dès aujourd'hui, d'ailleurs, se faire vacciner auprès des centres. Il y a une dizaine de centres en France, d'EHPAD qui gèrent en fait les doses pour les EHPAD. Ils peuvent directement aller se faire vacciner là, sur place. Ça fonctionne immédiatement dès aujourd'hui. Je crois que vous recevez Olivier Véran, d'ailleurs, demain à votre antenne.
Mais enfin, RTL, en tout cas, RTL, c'est Alba Ventura qui le recevra.
Évidemment, des annonces, et il sera plus précis là-dessus. Mais ne pas oublier une chose, c'est qu'il va falloir évidemment regrouper. On a, d'ici la fin de la semaine, sur 100 hôpitaux français, un centre, un vaccinodrome, comme vous dites, pour les personnels soignants, peut-être pour des personnes qui sont en EHPAD, mais capables de se véhiculer plus facilement. On va accélérer largement, et il faut le faire. On est tous d'accord là-dessus.
Une pause, et on retrouve Charles, mais aussi Cécile et Grégory pour discuter avec vous.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors vous allez pouvoir discuter avec Sylvain Maillard, qui est député de Paris de La République En Marche. Charles était là il y a quelques secondes. Charles.
Oui.
Vous écoutez ce que disait monsieur le député.
Je vous entends. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, je pense que, honnêtement, je voudrais dire le contraire, mais bon, c'est une intuition que j'ai, mais je pense que cette campagne de vaccination va être un échec. Et je pense que les raisons sont multiples, mais il y en a une qui me paraît importante, c'est que je pense que les politiques, les médecins, les épidémiologistes, et même les chroniqueurs qui s'expriment quotidiennement sur les plateaux TV ou à la radio, et qui n'ont aucune assise scientifique, en fait, induisent de la cacophonie et surtout de la peur. Et je pense que tout ça, quand vous mélangez toutes ces prises de parole, eh ben, ça conduit à quelque chose, à une attitude d'irresponsable, parce que, en fait, les gens finissent par avoir peur de se faire vacciner. Lorsqu'on entend régulièrement, par exemple, que le vaccin modifie le génome, comment voulez-vous derrière que les personnes soient en confiance pour aller se faire vacciner?
C'est à la parole scientifique de prendre la parole, si j'ose dire, et de faire un travail de pédagogie. C'est peut-être aussi au gouvernement, on l'a dit, de se faire vacciner, ce qui serait un signe donné à la population, qui serait peut-être davantage en sécurité. Mais j'entends ce que vous dites, Charles. Alors, il y a Cécile également que je voulais avoir. Est-ce que Cécile, elle revient du Brésil? Bonjour, Cécile.
Oui, bonjour, Pascal. Bonne année à tous.
Bonne année. Qu'est-ce que vous avez retenu du Brésil et de votre voyage?
Alors déjà avant de partir au Brésil, je vous avais eu et j'étais très très en colère et remontée par rapport à tout ce qui se passait, et surtout psychologiquement par rapport à ce qu'il allait arriver dans l'avenir. On est allé au Brésil, on a passé 10 jours absolument formidables où les gens continuent à vivre, où on a mangé au resto matin, midi et soir, où c'est, je ne vais pas parler de la météo, c'est personne qui en est responsable. Mais on vivait, c'était les gens, malgré la misère, parce que c'est le nord-est du Brésil n'est pas non plus très riche, ils sont heureux, ils vivent, et on est arrivé à Charles de Gaulle, ça a été juste, tout le bienfait, le bénéfice des vacances est parti en fumée avec cette vision d'horreur.
Mais il n'y a pas de masque, par exemple, au Brésil?
Non, il n'y a pas de masque au Brésil. Il y en a certains qui le portent dans les restaurants.
Il n'y a aucune restriction, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a rien du tout.
Ah, bien sûr que non. Non, non.
Mais les résultats ne sont pas extraordinaires, convenez-en, au Brésil.
Oui, mais ça, vous me l'aviez déjà dit la dernière fois. Mais en fait,
je ne les ai pas sous les yeux, mais ce n'est pas le pays, l'épidémie flambe.
D'accord. L'épidémie flambe. Non, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Pourquoi il y a beaucoup de morts ? Parce que le système de santé n'est sans doute pas aussi performant que le nôtre. Mais je poursuis juste, parce que j'ai jamais pu m'exprimer là-dessus, c'est que tant qu'on continue à faire autant de tests, parce qu'on a une fête, parce qu'on a une soirée, parce qu'à Noël, parce qu'on doit avoir un grand-parent, et que les tests sont positifs, parce que les tests sont tous positifs, on ne sortira pas de cette fermeture des restaurants, de cette fermeture des établissements scolaires. Moi, j'ai trois enfants qui étaient censés étudier à l'étranger, bien évidemment. Ils ne sont plus à l'étranger. Ils sont rentrés parce que c'est pire ailleurs encore. Hein. Au Canada, c'est juste effroyable parce qu'en plus, il y a une délation. Donc, pour moi, c'est irréaliste de continuer à tout faire.
C'est intéressant ce que dit Cécile, puisque c'est deux stratégies, pour le coup, qui sont différentes au Brésil et la France. Sylvain Maillard.
Bonjour Cécile, deux réponses.
Oui,
la première, c'est que d'abord, on apprend au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce virus. Mais il semble, et là-dessus vous avez raison, que le climat change beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on vit à l'extérieur, et c'est le cas a priori à l'heure actuelle au nord-est du Brésil, parce qu'on doit avoir des températures assez chaudes, vous êtes dehors, et donc évidemment il y a moins de transmission, parce que la transmission se fait plutôt en lieu confiné, les uns en face des autres, par exemple pendant un repas. Donc évidemment...
Est-ce que je peux juste intervenir, parce que le Brésil et le nord-est, donc vous parlez du climat, et justement, ça, on n'en a jamais parlé de ce qu'il faut faire en amont et de la vitamine D du climat, mais au niveau des regroupements, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point les gens sont agglutinés les uns sur les autres, à quel point dans les restaurants, les gens sont les uns sur les autres. Dans la rue, il y a des enceintes de la musique partout. Tout le monde est les uns sur les autres.
Donc vous, par exemple, pendant 15 jours, vous avez été agglutinés les uns sur les autres ?
Oui,
vous étiez avec votre compagnon, peut-être ?
Nous étions 28, oui, avec nos enfants, avec les amis. Bon.
Et personne n'est revenu avec le Covid, c'est ce que vous nous dites ?
Alors, lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, en principe, on était obligé de le faire, ce test. On a réussi à déroger, c'est comme ça, je suis désolée, il y a quelqu'un du gouvernement, je ne devrais peut-être pas me dévoiler, mais on a quand même réussi à rentrer sans le faire. Un couple d'amis n'a pas été aussi indiscipliné, et s'est dirigé. On a failli rater la correspondance, puisque bien évidemment, on arrive à Charles de Gaulle, on doit rentrer sur Marseille. Ils ont failli rater la correspondance. Si on n'était pas là, l'avion partait, on a juste insisté un petit peu, parce qu'il fallait faire la queue pour faire ce test Covid. Et donc, les deux l'ont fait, et ne l'avaient pas, bien évidemment. Voilà. Bon, et on a passé 7 heures dans un avion, à se démasquer pour manger, remasquer soi-disant.
Cécile, voilà. Je vous souhaite juste, j'entends ce que vous dites et j'adorerais avoir la vie que vous dites et que finalement on continue la vie comme avant. Ce qui est difficile, et pardon, je vais parler un peu de mon cas personnel, moi j'ai perdu deux amis qui sont morts du Covid il y a quelques semaines. Et je pense que si dans votre famille, vous aviez quelqu'un qui avait le Covid, qui avait passé même sans, hélas, en tout cas je le souhaite de tout cœur, sans décès, mais qui passe du temps aux urgences, vous auriez probablement un discours différent. Je ne le juge pas, je constate seulement, et je crois que cette maladie ne doit pas être prise à la légère. C'est probablement une des pires maladies qu'on ait eu à combattre et qu'il faut la combattre avec les armes que nous avons. Il y a plein d'imperfections, on en a parlé avant, on va sûrement en parler avec d'autres auditeurs. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais en tout cas, la conviction que j'ai profonde, c'est que il faut tout faire pour nous sauver les uns des autres et de faire attention les uns aux autres. Et l'attitude que vous avez, ce que vous dites, moi, me semble pas adapté à ce que nous devons faire. Après, reparlons-en dans 2-3 ans, on verra.
Mais vous voyez, par exemple, on reproche parfois à la parole politique de semer la peur. Vous venez de dire, c'est une des pires maladies qu'on a à combattre. Mais j'ai envie de vous dire, et les cancers ? Et j'ai envie de vous dire, et jadis la variole, et la peste, et des maladies qui, comment dire, desquelles le pronostic vital est immédiatement engagé. Là, on est sur une maladie, le pronostic vital, il est, je crois, de moins d'1% des gens qui décèdent, avec des gens qui, souvent, lorsqu'ils meurent, ont soit passé 80 ans, voire 90 ans, soit ont ce qu'on appelle des comorbidités, etc. Donc, le mot même que vous venez d'employer, on peut le remettre en cause. Une des pires maladies qu'on a eu à combattre. Et moi, je vous dis, les cancers...
Mais d'abord, c'est contagieux. C'est différent. Quand vous avez un cancer, c'est vous qui l'avez. C'est une maladie. C'est pas de même nature. Et deuxièmement, Vous savez, il y a des jeunes aussi qui l'ont. Oui. Avec des vraies séquelles.
J'en ai un très proche qui est souvent
sous oxygène 2 heures par jour depuis plus de 2 mois maintenant. Chez lui, il revient, il essaye de retravailler, qui a 30 ans et qui est en bien meilleure forme que moi. Qui était à l'origine en bien meilleure forme que moi. Ce n'est pas une maladie anodine. Il ne faut pas croire que c'est une grippette. On est sorti de ça, ça s'est fait il y a un an. On avait cette discussion il y a un an. Ce n'est pas une grippette. Il faut tout faire pour l'éviter. Il faut tout faire pour éviter d'aller à l'hôpital. Il faut tout faire pour éviter de l'attraper. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Et puis, si on a un doute, regardons l'ensemble des pays du monde. Honnêtement, l'ensemble des pays du monde. J'entends ce que dit, il y a des pays aussi où il y a des plus grandes difficultés. Je suis certain que vous allez dans certains pays pauvres. Évidemment, c'est plus compliqué. Mais regardez les pays comparables aux nôtres. Tout le monde a choisi les mêmes stratégies. Donc, c'est qu'à un moment, il y a quand même un faisceau d'indices.
Je ne suis pas sûr que ce soit un argument. Mais parce que l'aspect de contagion, si j'ose dire, de contagion politique cette fois-ci, fait que tout le monde, parfois, peut prendre les mêmes décisions. Mais en tout cas, on va marquer une pause. Grégory sera avec nous dans un instant. J'ai le hockey. Vous vous rendez compte? Ça, c'est pas bien d'avoir le hockey à 14h18. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
14h19, Grégory. Grégory, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Qui est infirmier, qui va pouvoir échanger avec Sylvain Maillard, je rappelle, député de La République En Marche à Paris.
Bonjour, monsieur Maillard.
Bonjour, monsieur.
Donc, moi, j'ai souhaité prendre la parole, pas forcément pour interpeller un politique, hein, parce que j'imagine la difficulté de la tâche quand on a une crise pareille à gérer. Mais moi, j'ai voulu un peu pousser un coup de gueule par rapport à cette ambiance de défiance qui règne par rapport au vaccin, que je comprends pas, parce que ce week-end, pour vous donner un exemple, je suis infirmier libéral, une dame de 86 ans qui souhaite se faire vacciner et qui se fera vacciner, hein, m'a quand même dit que un membre de sa famille, sa belle-fille, me semble-t-il, qui était infirmière elle-même, lui a déconseillé de se faire vacciner. Alors moi, j'ai pas pu m'empêcher de me mettre en colère en me disant mais c'est quand même pas possible que des confrères puissent dire ça, quoi. Quand on sait que à cet âge-là, le bénéfice du vaccin par rapport au risque est infiniment plus grand. Comment on peut tenir ce discours? Et ça m'a fait me souvenir d'une conversation que j'ai eue avec ma mère qui, elle, en 1959, me dit-elle, a participé à la gestion de l'épidémie de, à l'époque, de poliomyélite. Et elle était étudiante à ce moment-là et elle m'a décrit le travail qu'elle avait avec, dans un service d'enfants atteints de poliomyélite. Et c'était je vais le dire en 3 mots, c'était le musée des horreurs, ce qu'elle m'a décrit. Et aujourd'hui, la poliomyélite, Dieu merci, a disparu. Donc les gens qui sont des parents aujourd'hui ont sans doute beaucoup de soucis avec leurs enfants, comme j'en ai avec les miens, mais au moins, ils n'ont pas à s'inquiéter de savoir est-ce qu'un jour mes enfants seront touchés par la poliomyélite et seront handicapés toute leur vie. Et ça, c'est grâce à la vaccination. Alors moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui tous ces gens qui tiennent un discours, qui font du prosélytisme anti-vaccin. Ils ont la mémoire bien courte, ou alors ils sont trop jeunes pour avoir connu ces situations-là.
Là-dessus, Grégory, on peut tous se réconcilier sur le vaccin. C'est une chose sur laquelle on peut tous se réconcilier en disant oui, Sylvain Maillard, ce vaccin, il est efficace, il n'est évidemment pas dangereux et il est là pour nous protéger.
Moi, d'abord, le vaccin en lui-même est là, probablement la plus grande invention de la médecine moderne. C'est ce qui a permis d'éradiquer le plus de maladies dans ces 150 dernières années. Moi, ce que je veux dire, et c'est une chose très simple, finalement. Moi, dès que je pourrai me faire vacciner, je me ferai vacciner, j'en ferai publiquement. Ma femme se fera vacciner et je ferai vacciner mes deux filles de 8 et 10 ans. C'est très simple, c'est très clair et ce sera public. Voilà. Moi, je pense que quand on est de parole publique, c'est mon cas.
Il faut aussi montrer les choses. Se faire vacciner.
Oui, écoutez, il y a un débat dessus. Roselyne Bachelot, qui l'avait fait en 2011, elle dit écoutez, ça a été plutôt moqué. Donc, il y a ce côté un peu on a l'expérience de H1N1 et donc il ne faut pas le faire. Moi, à titre personnel, je le ferai. Ma famille se vaccinera, mes parents se vaccineront. Et je le rendrai public s'il faut le rendre public. En tout cas, pour moi, personnellement, évidemment, je le rendrai public. Et voilà, je crois que c'est important. Je me ferai vacciner, j'ai confiance. Et je crois que nous sortirons de là uniquement par le vaccin. Il n'y a pas d'autre solution.
Je pense que c'est une analyse, en tout cas, qui a le mérite d'être claire et sans doute juste. Encore faut-il que les gens soient convaincus. Et c'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que le gouvernement doit se faire vacciner, selon vous? Est-ce que
à ce titre personnel, je pense que nous devons non seulement faire vacciner le gouvernement, le gouvernement, les députés, les sénateurs, les maires. J'ai vu une appel des maires.
Les députés, par exemple, est-ce que tous sont prêts aujourd'hui à se faire vacciner ou pas? C'est intéressant, ça.
Il y a eu un débat, d'ailleurs, à l'Assemblée sur les 11 vaccins rendus obligatoires du temps d'Agnès Buzyn, où il y avait des députés, y compris chez nous, qui n'étaient pas favorables. Parce qu'il y a aussi... Moi, je crois qu'il faut non seulement se faire vacciner nous, mais se faire vacciner nos familles. Vous savez, quand j'aurai vacciné mes enfants et que ça sera que les membres du gouvernement se sont fait vacciner leurs enfants, leurs familles,
vous avez raison.
Évidemment, la confiance sera peut-être plus importante.
Ça me paraît évident. Bonjour Véronique.
C'est un avis personnel.
Pascal. Mais non, mais c'est une question de bon sens. Ce que vous dites là, vous avez une parole de bon sens. Si tous les hommes politiques, la représentation nationale, si tous se vaccinent, je pense que, effectivement, les Français seront davantage convaincus. Bonjour Véronique.
Bonjour Pascal, meilleurs vœux.
Meilleurs vœux, bonne année Véronique.
De
amour,
santé,
bonheur.
Hein, exactement. Voilà. Alors, moi, simplement, je le trouve vraiment, vraiment pas normal. Si j'ai bien entendu, il y a 52% des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ok. Donc, tout le reste veut le faire, sont volontaires. Pourquoi on ne fait pas cette vaccination des gens qui sont volontaires? C'est énorme en pourcentage. Et ça résoudrait
parce que la stratégie, c'est les personnes fragiles. Alors moi, je pense qu'il faudrait avoir accès à tout ça.
On est d'accord, mais regardez, par exemple, moi, mon mari est une personne fragile. Mmh. Je ne peux pas me faire vacciner, lui non plus, pour l'instant.
Et pourquoi ?
Les prioritaires, tout de suite.
Parce que les prioritaires, c'est les EHPAD.
Les EHPAD, les médecins, et après, ce sera mon mari peut-être.
Ouais.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Après, ce sera par tranche d'âge, madame. Donc, c'est-à-dire les plus de 75 ans, 65 ans, 60 ans, et on y arrivera.
Et alors,
madame, j'adorais, moi, je suis un peu plus jeune, mais j'adorais me faire vacciner. Il y a un ordre de priorisation, évidemment, parce qu'il n'y a pas suffisamment de doses. Qu'on soit très clair, on reçoit 500 000 doses, c'est le début d'un vaccin, on
par
a déjà un processus incroyable,
par semaine.
Et donc, ces 500 000 doses doivent être utilisées pleinement, et ça, on est d'accord qu'il faut améliorer, mais on n'est pas capable de...
Il y a quelques personnes de vacciner, à ce jour. Donc, on reçoit quand même 500 000 par semaine. Donc, si 40 et quelques pourcents de la population était vaccinée rapidement déjà, tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui se cherchent, ils font ce qu'ils veulent, pour l'instant. Mais vacciner tous les gens qui sont volontaires, c'est énorme déjà.
C'est ce qui va se passer, madame. C'est-à-dire que nous allons vacciner, évidemment, tous les volontaires. On ne forcera pas, on a dit, le président de la République l'a répété, on n'obligera pas à la vaccination, mais tous les volontaires... Par ordonnancement, puisque nous n'avons pas... d'abord, il faut l'organiser, et puis on n'est pas capable, dans une semaine, évidemment, même si on avait les doses, de vacciner 40 millions de personnes, mais on va l'organiser, et on a priorisé les choses, donc d'abord les EHPAD, puis les personnels soignants. Maintenant, les personnels soignants commencent dès ce jour, et puis au fur et à mesure, 75 ans, 65 ans, les plus de 75 ans, 65 ans, 60 ans, et on va descendre au fur et à mesure de l'arrivage des doses, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, pour essayer de vacciner le maximum de personnes en fonction du nombre de doses reçues, parce qu'il y a aussi une incertitude là-dessus. On a pour le moment un vaccin, on a un deuxième qui va normalement cette semaine arriver, l'AstraZeneca, et puis d'autres vont arriver, mais le nombre total de doses qui sera disponible en Europe, aux États-Unis, partout, d'ailleurs, n'est pas encore connu. Donc on va devoir s'adapter aussi au nombre de doses accessibles pour tous.
Eh bien, je vais remercier Véronique, et puis je vais remercier Sylvain Maillard.
Des gens volontaires, sur un site, les gens volontaires.
Ben oui, mais il y a une priorité. Merci en tout cas, Véronique.
Merci,
et puis
Pascal.
Vraiment, merci à Sylvain Maillard, parce que je disais tout à l'heure, il y a le feu, il est assez courageux, il vient ici pour... Finalement, les gens ont été gentils avec vous, ils ont été plus gentils que moi, vous voyez. Moi, je vous ai dit, il y a le feu, et franchement, faut que vous en sortiez bien, parce qu'entre les masques, les tests, la stratégie de traçage, d'isolement, etc., comme rien n'a marché, ça serait pas mal que les masques... Non, mais
surtout, le plus important, Pascal Praud, c'est que nous sortions de ce Covid, et pour en sortir, il n'y aura que l'immunité collective, et donc ça passe par le vaccin, donc nous devons réussir là-dessus.
Encore faut-il 500 personnes vaccinées à ce rythme-là, on est tous vaccinés en 2050, pas avant. Je vois que Flavie Flamand est arrivée, et je lui souhaite une bonne année. Bien évidemment, amour, santé et bonheur. Elle va être au micro dans une seconde. Merci Monsieur Maillard, et bonne année aussi à vous.